Alors, c'est mon plaisir de présenter maintenant le professeur Rodogno. On va quitter la Suisse, je crois.
Oui.
Monsieur Rodogno est professeur à l'IHEID. Il est notamment spécialisé dans l'histoire des organisations internationales et de l'humanitaire. Parmi ses nombreuses publications, je mentionnerai « Humanitarian Photography, a History ». Et le titre de sa présentation de maintenant, c'est « La photographie humanitaire après la fin de la Première Guerre mondiale ».
Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à ce colloque. Effectivement, on va quitter la Suisse, et donc je suis le dernier du premier panel, et donc quelque part aussi le premier du panel de l'après-midi. Donc la photographie humanitaire, si on suppose qu'un tel objet d'étude existe, et vous pourriez très bien ne pas être d'accord avec moi, est un prisme à travers lequel l'historien, cet historien en tout cas, peut également mieux comprendre où cerner l'histoire de la paix, de la guerre et des actions humanitaires. Au risque de vous décevoir, je ne vous montrerai pas beaucoup de photos, et par ailleurs, on est tellement instagramisé que vous pourriez me dire « so what ». Mais je vous invite précisément à éviter tout anachronisme, et voici pourquoi je voudrais vous parler, vous raconter une micro-histoire qui illustre le rôle des photos prises lors d'une fact-finding mission d'un délégué du CICR en Turquie en 1921. Ces photographies ont servi pour asseoir l'autorité et la légitimité de l'institution humanitaire du CICR, ainsi que comme déclencheur d'une action humanitaire. Pour faire écho à la conférence de M. Peter Maurer de hier matin, on pourrait se poser la question de savoir si l'action du CICR fut une action de paix, si oui, quelle paix, et s'il s'agissait d'une vision d'un délégué ou d'une vision partagée par l'institution elle-même. Donc, je vais vous parler de la fact-finding mission du délégué du CICR Maurice Guéry, dont la mer de Marmara, que vous voyez ici, tout près de Istanbul, qui se trouve pas loin de cette carte géographique que j'aurais trouvée hier soir. En 1921, la persévérance de Maurice Guéry, donc ce délégué du CICR, le fait qu'il utilise son appareil photo, contribuèrent à établir l'effet sur les atrocités et autres violences à l'égard des civils turcs dans la péninsule de Marmara, que vous voyez ici, et de faire la lumière sur le rôle des civils arméniens et grecs, donc je reviendrai sur le point que Cédric a mentionné ce matin tout à l'heure, et d'entreprendre une action humanitaire qui dévoile une page assez méconnue sur les relations du CICR avec les populations musulmanes. Trois points, trois précisions avant de rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, il n'y a absolument rien de nouveau sur les procédures d'établissement de faits. Depuis le XIXe siècle, celle-ci était menée dans le contexte de massacres et de populations civiles. Les grandes puissances européennes, de manière absolument biaisée et arbitraire, considéraient certains massacres ou autres atrocités comme des actes criminels non justifiables qui méritaient d'être vérifiés par et jugés par la suite. Pensez par exemple aux investigations des autorités consulaires et diplomatiques européennes en 1860-61, après les massacres qui eurent lieu dans les provinces syriennes de l'Empire ottoman. À l'époque, des fact-finding missions furent organisées et par les autorités impériales ottomanes et par les autorités européennes qui étaient intervenues pour des raisons d'humanité. Les investigations ottomanes portèrent à l'incarcération, à l'accusation et à l'exécution d'un certain nombre de responsables de massacres qui étaient quasiment tous des druzes. Bien évidemment, donc, on peut s'interroger sur le fait s'il existe ou pas une continuité dans les procédures et les résultats, ainsi que sur les motifs de ces fact-finding missions. À l'époque, il y avait des discriminations, des postures coloniales impérialistes, civilisationnistes, pour le dire avec Jean Storobinski, il y avait du racisme, mais l'idée et l'importance de vérifier les faits dans ces massacres et atrocités de populations civiles a donc une histoire longue. C'est ça le point que je voudrais que vous puissiez retenir. Ce qui ne signifie pas du tout que les actions ex post pour évaluer la nature et établir les responsabilités des massacres soient des précédents directs des droits de l'homme tels qu'on les connaît aujourd'hui en 2017. Ce n'est pas du tout le point que je veux faire. Deuxième précision, ce qui change en 1921, donc par rapport à l'histoire que je vais vous raconter, c'est qu'une institution, un acteur non étatique, dans notre cas le CICR, en la personne de son délégué Maurice Guéry, participe à une de ces missions. Et contrairement aux émissaires des gouvernements alliés, qui sont eux aussi présents, comme les Britanniques, les Français et d'autres, Guéry dispose d'un know-how et d'une technologie, sa petite caméra, qui va faire la différence. Troisième précision, la preuve documentaire photographique devient une partie importante dans l'établissement des faits, ainsi que le moteur et la justification d'une action humanitaire. Voici aussi ce qui change par rapport à 1860 et à d'autres événements qui ont eu lieu pendant la fin du XIXe siècle et le XXe siècle. Je pense par exemple au pogrom de juifs en Russie tsariste, je pense au massacre hamidien des populations arméniennes de l'Empire ottoman. Bien évidemment, et c'est un sujet sur lequel on pourra discuter par la suite, la nature des photos prises et la circulation de ces photos est fort différente par rapport aux photos de la Congo Reform Associations qui sont publiées au début du XXe siècle. Et aussi par rapport aux photos d'enfants prises par d'autres associations humanitaires pour des raisons de fundraising ou d'advocacy. Il s'agit de photos qui ont une raison d'être et une circulation ainsi qu'une utilisation très spécifique. Donc, le point que je vous prie de retenir est que faire un amalgame et parler de photos humanitaires au singulier est peut-être pas si correct. Donc, allons voir de plus près ce qui se passa en 1921 dans la péninsule turque de Samalbidag, dans la mer de Marmara. À l'époque, l'armée grecque semblait avancer victorieuse en Anatolie et en Thrace. Éclaté en 1919, le conflit gréco-turc dissémine son lot de morts et de désolations, donc nous nous trouvons dans une situation qui n'est pas une situation, bah, là c'est une situation de guerre bien évidemment, mais ailleurs en Europe occidentale, on est dans une situation de paix. Donc je me pose aussi des questions sur les chronologies que nous historiens aimons faire et sur les manières de les détruire. Maurice Guéry est un membre d'une mission interalliée chargée d'enquêter sur les atrocités imputées aux Grecs et il dépose le récit de ses investigations très confidentielles dans un journal de route qui est conservé parmi les fonds MIS, M-I-S que vous voyez ici, aux archives du CICR. Et comme tous ceux qui ont travaillé dans les archives qui se trouvent ici derrière, vous connaissez très bien les conditions de lumière, et donc vous comprendrez pourquoi mes photos sont dans une telle mauvaise qualité. Et je vais revenir sur ce point. Ici, vous voyez les planches contact qui sont conservées dans les MIS, qui ne sont pas du tout les photos qui ont été remises à la photothèque du CICR. Donc, désolé pour la mauvaise qualité. Ça, c'est les notes de Guéry lui-même. Plus, je vais insister sur ces photos dans un instant. C'est juste pour vous montrer ce qu'on trouve dans son carnet de route. Et par ailleurs, j'ai remarqué qu'à la photothèque, il y a plusieurs erreurs. Parce que la chronologie est fausse, la nomenclature n'est pas la même, les noms des bateaux ne sont pas les mêmes, etc. Et par ailleurs, les photos sont désormais disponibles online. Donc, la péninsule du Samalbidag est visible depuis Istanbul. À l'époque, elle était située à 3 ou 4 heures de bateau de Istanbul. Et au printemps 1921, l'ex-capitale ottomane est déjà à la limite de ses capacités d'accueil et elle est subitement envahie par un flux de réfugiés en provenance de la péninsule de Marmara que je vous ai montré il y a une seconde. Il s'agissait de femmes, de vieillards, d'enfants qui avaient quitté leur foyer en toute hâte, dans le plus grand dénuement. Le poisson rouge ottoman avait déjà attiré l'attention des autorités alliées sur les violences de l'occupant grec. Il ne faut pas oublier que Istanbul était militairement occupé par les alliés. Et dans ce contexte, le haut commissaire britannique à Istanbul, Sir Horace Rumbold, organise une fact-finding commission, une commission d'enquête. Dès qu'il eut connaissance du projet, le Poisson Rouge ottoman sollicita le CICR pour qu'il envoie un délégué pour participer à cette enquête menée sur la base des déclarations de témoins oculaires grecs, arméniens et turcs. Et c'est un point important qui témoigne de la confiance faite au CICR par les autorités turques, une confiance que les alliés n'avaient pas du tout dans le CICR. Partie du Bosphore le jeudi 12 mai 1921, à midi, la commission serait rentré à Istanbul 10 jours après. Donc je vous parle d'une histoire qui a duré de 10 jours exactement. Et en 10 jours, ses membres visitent la plupart des localités du littoral ainsi qu'un certain nombre de villages situés à l'intérieur. dans son journal de route, Maurice Guéry, décrit le départ du HMS Byroni, qui était le navire que vous avez aperçu dans ma première photographie. Et avec lui, il y a toute la commission interalliée. Et le 12 mai, après 4 heures, ils arrivent ici, à Gemlik, qui est un village au fond du golfe de Moudania. Le général Leonardopoulos, qui était le commandant de la division hellénique dispatchée dans cette région, accueille immédiatement le baronnie. Et la première chose qu'il fait, c'est de contester l'impartialité de la mission. Mais tout de même, il met toutefois ses officiers à la disposition du groupe, censés se rendre le lendemain dans un petit village de l'intérieur appelé Bazarkeni. Le jour suivant, le général britannique Franks, qui est le chef de cette mission, la première chose qu'il fait, c'est d'empêcher Guéry de suivre la mission à Bazarkeni. Et c'est un point important. Le délégué s'en fiche complètement et il lance tout seul son enquête de terrain à Gemlik. Il commence par les quartiers des réfugiés grecs arméniens, il s'assoit à la plage et il écoute les histoires que ces personnes lui disent à travers l'intermédiaire des notables grecs et arméniens et surtout des autorités religieuses. Il fait une comptabilité des réfugiés, qui est là, depuis quand, etc. Tout le monde raconte l'histoire des atrocités qu'ils ont subies, les Grecs, leurs atrocités. Les Arméniens, bien évidemment, racontent toutes sortes de choses. Et je vous passe des détails morbides, plusieurs. Le maire et les notables, d'ailleurs, s'insurgent et se fâchent parce que quand leur atrocité avait eu lieu, personne n'était venu les aider. Mais maintenant que des Turcs sont victimes d'atrocités, ils ne peuvent pas du tout admettre qu'une commission interalliée s'occupe d'eux. Et de toute façon, ils disent, nous faisons le bien des Turcs. L'occupation grecque fait le bien des Turcs et cette population... écrit Guéry dans son journal de bord, était l'élément actif, industrieux et riche et apportait la civilisation aux Turcs. Il ne faisait pas du tout mystère de leur objectif de chasser vers l'intérieur, et je cite de nouveau, vers l'intérieur de l'Asie, cette race maudite qui depuis des siècles n'a pas fait un progrès, qui est incapable de progrès et qui, pour le bien de la civilisation, doit être à jamais extirpée d'Europe et du littoral asiatique. Les autorités grecques ainsi que la population civile locale ne réclamaient pas moins que le nettoyage ethnique et l'extermination de la race turque. C'est des mots qu'on trouve dans le journal. Donc c'est précisément cette tirade des autorités locales qui éveille les soupçons de Guéry. Et comme il c'est un type très très teigneux, il décide d'aller voir le quartier où les réfugiés turcs se sont retrouvés, et c'est là qu'il voit des conditions absolument désastreuses. Il voit vraiment des enfants qui sont en train de mourir, des femmes et des vieillards qui sont aussi dans cette situation extrêmement pénible. Mais comme il était accompagné par les Grecs et les Arméniens, les populations turques n'ont aucune envie de parler, et comme il écrit, ils ont les langues liées. Donc, qu'est-ce qu'il fait notre ami Guéry? Il décide de faire une deuxième visite lorsque il n'y aurait pas d'Arméniens et de Grecs avec lui pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Effectivement, c'est là qu'il apprend que tous ces réfugiés qui se trouvaient à Gemlik venaient du village de Bazarkeni, qui était en même temps visité par la commission interalliée. Donc c'est là où il aurait dû aller et il n'avait pas pu aller. Donc le soir, Guéry rentre à bord. Il reçoit confirmation du navire. Il reçoit confirmation que Bazarkeni avait été détruit, même s'il n'y avait pas trace d'explosion et aucun reste de cadavre, avait été découvert. D'après les autorités militaires grecques, les responsables étaient les Arméniens, dont les villages avaient été précédemment été rasés par les Turcs, et dans ces règlements de compte, dans ces vendettas, l'armée grecque semblait quasiment regarder en spectatrice, ce qui rendait Guéry et les autres hommes de la mission militaire de plus en plus suspicieux. Par ailleurs, la commission avait pris en flagrant délit 4 soldats grecs qui mettaient le feu à des maisons d'un village turc abandonné. Le jour après, le délégué part en quête d'informations supplémentaires dans un autre village, tandis que la commission part dans un troisième village. Et ce qui se passe là, c'est une histoire assez incroyable, et c'est là où l'action humanitaire est véritablement déclenchée. Lorsque ces membres de la mission interalliée partent dans ces villages, les populations turques pensent que leur seule manière de sauver leur vie, c'est de les suivre. Et ils commencent à se mettre derrière les commissaires pour rentrer au port de Delvik. Et donc là, la situation devient vraiment très compliquée, parce que le Bayroni, avec ses projecteurs électriques, va projeter de la lumière toute la nuit pour éviter que ces gens soient massacrés par les autres populations. Et donc, c'est là que le général Franks envoie une dépêche à Leonardopoulos, le rendant responsable d'éventuels massacres de musulmans. Et c'est là que l'idée de transférer en Turquie les rescapés musulmans prend corps. Toutefois, le haut commissaire Rumbold est totalement opposé à cette solution. Il suggère de créer des camps de concentration, c'est comme ça qu'on les appelle, sous la protection d'officiers interalliés de la Croix-Rouge envoyés d'Istanbul. Et guère, là, c'est l'expertise du CICR, lui dit immédiatement que ça serait fort bien de faire ça, mais la réalisation demanderait un temps et que la population ne peut pas être abandonnée, et je le cite, au sort cruel qui la frappera certainement dès que nous serons partis. Pour le délégué, l'incendie volontaire de villages sur leurs yeux, le meurtre de civils et de femmes par les soldats grecs impose, je le cite, le devoir de sauver ces réfugiés immédiatement. Ce que Guéry fait alors est beaucoup plus malin, à mon avis, c'est-à-dire il propose d'adresser une demande au croissant rouge ottoman, et c'est là qu'on voit le rôle d'un acteur non étatique et du CICR en particulier, pour loger et ravitailler ces réfugiés. Et la mission militaire accepte, et le Croissant Rouge va organiser donc une mission de sauvetage avec un navire. Et c'est donc là que environ 2660 civils de la péninsule de Marmara seront déplacés, déportés à Istanbul, à la périphérie de la ville d'Istanbul. Guéry fait partie du groupe censé contrôler ces opérations. Et il embarque à bord du navire Gul Nihal, à l'intérieur duquel se trouve aussi Arnold Joseph Toynbee, un professeur d'histoire à Londres et qui est aussi correspondant du Manchester Guardian, et sa femme disposant d'un laissez-passer du commandant-chef de l'armée grecque qui le permettait de circuler sur tous les fronts. Ça nous dit aussi beaucoup sur la liberté des journalistes à l'époque et la liberté des journalistes aujourd'hui, mais c'est un autre thème. L'accrochage avec les autorités grecques est encore plus virulent que lors de la première visite, parce que les membres de la mission voulaient en effet que tous les habitants musulmans qui le désiraient soient embarqués. Pour les autorités grecques civilisées, chaque départ était une admission implicite que les atrocités avaient bien eu lieu. C'est pour ça qu'elles s'entêtent à éviter que justice soit faite ou que les civils turcs puissent partir. Et lors de cette deuxième visite, Guéry écrit « Je ne crois pas que le CICR, qui a secouru et sauvé tant de gens au cours de la Grande Guerre et depuis n'ait jamais rencontré tant de difficultés et d'obstination à l'égard des femmes et d'enfants sans défense. » Je serais obligé, à mon grand regret, de demander au CICR de protester auprès de la Croix-Rouge hellénique, la même Croix-Rouge qui avait été nommée pour le prix Nobel de la paix, en l'informant de tous ces faits et d'en saisir ensuite la grande presse qui considère encore les Grecs comme une nation civilisée. Les scènes vécues au village de Yalova frappent particulièrement le délégué. Les femmes turques embrassant ses genoux, les réfugiés rassemblés sur la plage, d'autres qui descendent des collines environnantes avec leurs bagages, si anxieux de ne pas être oubliés. Guéry observe les soldats grecs empêchant une femme de sortir de sa maison en la repoussant à coups de crosse. Il constate la connivence des officiers grecs avec les bandits et stigmatise les interminables procédures d'embarquement qui humilient les réfugiés. Il décrit les moqueries des soldats et des civils qui cuisinent les réfugiés en leur disant « N'embarquez pas, on va couler le bateau entre Yalova et Istanbul ». Bref, cette deuxième mission a réussi à embarquer environ 335 réfugiés, dont beaucoup d'enfants. En conclusion, la situation de Guéry est vraiment difficile. Il est considéré comme un intrus, c'est pourquoi le premier jour de la mission, Franks lui communique qu'il ne pourra pas suivre les commissaires. Mais c'est notamment lorsque Goering remettra au général des clichés de civils musulmans tués à Gemlik que les choses changent. Guerre y intègre petit à petit la mission, même s'il continue de coucher dans un hamac où, écrit-il, il dormait de toute façon très bien. Et à partager la table de l'équipage et pas du tout celle des officiers. Dans ces notes très confidentielles, et ça c'est un point de détail très important, à mon sens en tout cas, Guerry informe le CICR que l'enquête lancée par Horace Rumble au tout début était censée blanchir les Grecs des atrocités qu'on leur imputait. Ça c'est un point qui a toute sa importance. Guerry écrit aussi que des éléments de l'armée grecque d'occupation avaient poursuivi depuis avril 1921, et je le cite, l'extermination systématique de la population musulmane de la presqu'île de Marmara. Donc ça c'est aussi un point relativement important, je pourrais vous donner ensuite d'autres détails. Cinq points télégraphiques comme food for thought avant le départ pour notre lunch. Premier point, il est intéressant de remarquer que le rapport de Guerry utilise une terminologie qui sera plus tard au cœur de la convention contre le génocide de 1948. Il fait référence à l'extermination systématique des Turcs qui, rappelons-le, avaient pendant la guerre procédé au génocide des Arméniens, et je reviens à ce que Cédric disait ce matin. Deuxième point, le délégué fait mention du plébiscite et il fait référence indirecte à la création de frontières ethniques et religieuses homogènes, ainsi qu'à l'idée de nettoyage ethnique qui aurait si lourdement marqué l'histoire de la Grèce et de la Turquie à partir du mois de septembre 1922. Là, je vous rappelle, on est en 1921. Probablement donc c'était le Zeitgeist. Troisième point, l'histoire inédite de cette Fact-Finding Commission permet d'extrapoler une réflexion plus large sur les relations entre militaires et travailleurs humanitaires et sur la professionnalisation du CICR à cette époque précise. Le quatrième point concerne le récit de Guerry qui nous incite à nous interroger sur la relation toujours ambiguë et complexe entre droits de l'homme et humanitarisme. Le cinquième et dernier point, c'est ça. Je n'ai pas, désolé de montrer ces photos comme ça, je n'ai pas la preuve et la certitude que c'est une photo qui appartient aux photos prises par Guerry lors de ce voyage, mais c'est une des photos qu'on trouve à la photothèque avec les photos de la péninsule de Samandidag avec ce type de commentaires, de captions. Ça, c'est des photos beaucoup plus classiques. Et ensuite, le gros des photos qui concernent l'œuvre de Guerry sont la preuve que ces populations turques vont s'accumuler dans la zone du port, du petit port du village de Gemlik. Là, on en a une. On en a une autre. Et la dernière série de ces photos concerne l'embarquement des civils turcs de cette région. Voici quelques exemples. Voilà. Ils partent avec vraiment rien, comme vous pouvez le constater. Et là, ils sont déjà dans les navires. Voilà une preuve qu'ils sont embarqués. Et finalement, le départ. Je ne saurais pas vous dire si c'est la première ou la deuxième mission. À mon avis, c'est la deuxième mission avec 300 personnes à bord. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.